Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre espace de discussion. Aujourd'hui, nous parlerons de violences basées sur le genre en ligne. Selon les spécialistes, la violence sexiste en ligne ou facilitée par la technologie est une forme d'injustice et de discrimination basée sur le genre qui a lieu dans des espaces en ligne. Que peut inclure ce type de VBG? Quelle réalité en Côte d'Ivoire? Comment lutter contre ce phénomène? Autant de questions qui trouveront réponse avec nos invités du jour, notamment Louise Yao. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes la chargée des relations extérieures de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être là.
C'est moi qui vous remercie.
Avec vous sur notre plateau, Nyangoran Angelina, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes la présidente de l'association Peace in Campus.
C'est bien ça.
D'accord. Tout de suite, on va essayer de faire une brève présentation de vos structures. On va commencer par l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire avec vous, Louise Yao.
D'accord. Donc, l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire existe depuis maintenant 11 années. Et c'est la toute première association qui a regroupé, on va dire, les professionnels du web ou les personnes qui s'intéressaient au nouveau métier qu'offrait le web. Mmh. Nous sommes à notre quatrième mandat, on va dire, de présidence. Donc, il y a eu trois autres présidents et présidentes avant celle-là, qui est Rita Kouamenan. Nous intervenons, comme je l'ai dit tantôt, dans tout ce qui est métier du web. Donc, que ce soit la communication digitale, le web journalisme. Et nous avons pu aussi mener des projets en ce qui concerne l'alphabétisation numérique des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui s'intéresseraient au nouveau métier de la communication ou au nouveau métier lié aux nouvelles technologies, sinon aux technologies.
D'accord, merci pour ces précisions. Nyangoran Angelina, qu'en est-il de votre association Peace in Campus?
Peace in Campus est une association estudiantine qui milite pour le leadership féminin, l'excellence et l'autonomisation en milieu scolaire et universitaire à travers la participation active des jeunes filles dans les domaines comme la politique, l'économie, le sport, la musique, en tout cas tous les domaines où elles peuvent montrer leur savoir-faire et leur savoir-être.
D'accord. Alors, amis auditeurs, rappelons que nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour parler de violences basées sur le genre en ligne. C'est vrai qu'on a donné une idée de ce que c'est hein, en début d'émission, mais pour vous, c'est quoi une violence basée sur le genre en ligne?
Alors, il faudra peut-être séquencer. Les violences basées sur le genre sont les violences faites à une personne du fait de son sexe ou de son appartenance sexuelle. Donc, quand ces violences sont perpétrées contre une personne sur les canaux de communication tels que Internet, les sites web, Facebook, WhatsApp même, Instagram, TikTok ou tout autre réseau social qu'on pourrait connaître. Voilà.
D'accord. Nyangoran Angelina.
Le mot genre ne renvoie pas tout de suite ou bien uniquement au sexe en fait. Ça parle plus de catégories sociales. Donc ce n'est pas forcément le fait d'être d'un sexe X ou Y qui fait que lorsque vous êtes violente. C'est pas seulement ça, en fait. Il y a aussi le fait d'appartenir à un groupe social bien déterminé. Il y a vos opinions aussi qui peuvent entrer en ligne de jeu. Il y a ce que vous êtes vous-même qui peut pousser d'autres personnes à vous violenter. C'est-à-dire à poser des actes qui sont dans le but de vous nuire ou de vous empêcher d'évoluer dans ce que vous êtes en train de faire. En ce moment, on parle de violence basée sur le genre. Donc, c'est pas que le sexe, en fait.
D'accord. Alors
c'est plus les rapports sociaux qui sont mis en avant, on va dire. N'empêche que, comme la femme est plus victime dans ce genre de cas, très souvent, on a assimilé la violence basée sur le genre à la violence faite aux femmes.
Pourtant, les hommes aussi sont concernés.
Oui, les hommes aussi sont victimes de ça. Les enfants sont victimes de ça.
Exactement.
Les personnes en situation de handicap, mm-hmm. des personnes à cause de leur profession, à cause de leur choix de vie, des personnes à cause de leur religion même sont victimes. C'est-à-dire, c'est pas forcément le sexe. Ça peut être un homme ou une femme ou un groupe d'hommes, un groupe de femmes ou un groupe mixte qui est victime de ce genre de violence-là, juste parce qu'ils ont un penchant que les autres n'aiment pas.
D'accord, merci en tout cas d'avoir éclairé la lanterne de nos auditeurs. Quelle est la réalité déjà en Côte d'Ivoire? On reste avec vous, Nyangoran Angelina.
La réalité en Côte d'Ivoire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de mécanisme bien déterminé où on sait signifier violence basée sur le genre. Les mécanismes juridiques ici sont, on va dire, un peu larges, généraux, on va dire. Parce que les lois qu'on donne, on ne dit pas, par exemple, que la loi est faite pour une personne qui est femme et qui est victime de violence. Donc, on dit un homme, mais un être humain tout court, pour dire que si cette personne a ses droits violés, la personne peut faire telle ou telle chose. Donc, on ne met pas trop l'accent dessus. Du coup, quand on parle de violence basée sur le genre, violence basée sur le genre, l'individu lambda ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Et souvent, ça prête à confusion. Et après, il y a des choses qui créent même la confusion dans ceux même qui militent pour ça, en fait.
D'accord. Alors, on va préciser les choses. Hein. C'est vrai qu'on parle de violence basée sur le genre en ligne. Et tout à l'heure, vous avez attiré l'attention sur les différentes spécificités. Mm-hmm. Mais là, on va plutôt mettre l'accent sur les femmes. Mm-hmm. Quelle est la réalité en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que les femmes sont victimes de violences en ligne?
En ligne, ok. En ligne, les femmes sont victimes généralement à cause de leur physique. Ouais, c'est-à-dire, on attaque premièrement le physique avant d'entrer dans autre chose. Parce que vous pouvez recevoir tout de suite des messages déplacés. Vous pouvez recevoir des vidéos, des photos de parties intimes d'un individu que vous ne connaissez pas, mm-hmm, et qui tout de suite vous prend pour une personne qui vend du sexe, qui fait quelque chose de ce genre-là sur Internet. Pourtant, ce n'est pas forcément ce que vous faites. Il y a aussi le fait que lorsque une femme prend position sur Internet, pour dire surtout le côté politique, lorsqu'elle dit ouvertement que je suis politique, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui vont se créer autour d'elle. Ils vont même essayer de manipuler des informations pour pouvoir nuire à cette dame-là.
L'intimider.
L'intimider. Donc, sur Internet, il y a ce qu'on appelle le trolling. Il y a les insultes dont elle va être victime. Il y a les deepfakes. Comme je l'ai dit, on prend ses données. C'est-à-dire, elle peut faire une vidéo, par exemple, dans son salon, sur un divan. Elle est couchée. Normalement, c'est dans son salon, elle a fait la vidéo. Mais quelqu'un va prendre et modifier cette vidéo-là de sorte que ça soit comme si elle était dans sa chambre.
La sortir de
voilà,
son cadre.
Voilà, la sortie de son contexte pour dire, mm-hmm, oui, elle était avec tel homme dans tel endroit. Voici, ils étaient en train de faire tant. Tout ça avec l'avancée de l'intelligence artificielle qui permet de faire énormément de choses dont on n'a pas idée. Magnifique. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens avec des esprits malsains qui utilisent ça pour détruire les femmes. Que ce soit en politique, mais aussi dans bien d'autres domaines, parce qu'ils estiment qu'elle ne devrait pas être là, en fait, à être celle qui donne l'impression d'être celle qui domine, en fait. Voilà un peu ce à quoi on est confronté. Comme je l'ai dit, les insultes, le trolling, la désinformation. Il y a aussi le setting non consensuel. C'est ce que je disais, c'est-à-dire être exposé à des images sans notre consentement. Moi, j'en ai été victime. Très souvent dans mon inbox, il y a des gens qui m'envoient des vidéos de leur sexe ou bien des photos. Moi, quand c'est comme ça, je ne cherche pas à discuter parce que je me dis une personne avec toutes ses facultés mentales ne peut pas envoyer de telles images à quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, je bloque automatiquement la personne pour ne plus m'emmerder. Sinon, il y a la possibilité de poursuivre ces personnes-là. Il y a la Côte d'Ivoire, depuis 2013, il y a des lois qui sont là bien pour poursuivre les personnes qui nous font parvenir des images qu'on ne veut pas. J'ai noté le doxing.
Le doxing, c'est quoi?
La diffusion de renseignements, mm-hmm, privés.
D'accord.
De la victime. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai mon mari. On a une conversation, peut-être sur WhatsApp, et il me demande de faire des photos et tout. On essaye d'échanger des photos. Et il y a quelqu'un qui pirate mon compte, utilise ces photos-là pour les divulguer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne lui ai pas donné l'autorisation déjà d'accéder à mon téléphone, à plus forte raison d'utiliser mes photos pour les exposer sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on appelle le doxing.
D'accord. Louise Yao.
Donc, à la suite de ce que Angelina a pu dire, vous avez le cyberharcèlement, mmh, classique. Donc, un bon monsieur qui drague une jeune dame et tout de suite, elle va recevoir, comme elle a dit tout à l'heure, des vidéos, des photos choquantes. Vous avez aussi des personnes qui, on va dire, dans la vie normale, ont des problèmes et qui vont téléporter ça sur les réseaux sociaux. Donc, lui envoyer des injures, des menaces. Souvent, on ne sait même pas qui le fait. Ça, c'est courant. Vous êtes là, vous recevez un message de menace, de violence, de verbal, on vous insulte, on vous ramène tout et n'importe quoi. Donc, vous avez ce type de harcèlement-là. Vous avez la diffamation aussi qui intervient énormément au niveau des femmes. Je rappelle que je suis restée au niveau des femmes et donc du genre catégorisé comme ça parce que, justement, vous aviez rappelé que le thème est en rapport avec des femmes.
Exactement.
Donc, vous avez aussi des insultes qui peuvent fuser, justement, du fait de vos positions, qu'elles soient politiques ou pas, hein. Vous avez des débats sur certains groupes très connus qui dégénèrent. Et tout de suite, comme elle l'a dit aussi, le physique est pris à partie. Il suffit d'avoir un petit nez penché ou un œil qui louche pour qu'on vous retire le droit de débattre sainement sur les réseaux. Donc, vous avez autant d'infractions qui, comme elle l'a notifié, peuvent être pénalisées. Depuis 2013, le harcèlement est pénalisé, le harcèlement en ligne est pénalisé. Et vous avez aussi les détournements d'images dont elle a parlé tout à l'heure. Et bien souvent, c'est fait pour essayer de nuire à l'image d'une personne. Ça peut être drôle pour celui qui le fait, mais qui peut avoir une répercussion sur le niveau de vie, sur la carrière de la personne,
de
la femme, voilà, de la victime, mm-hmm. à qui on fait ce tort-là. Donc voilà autant de choses que les femmes subissent. Et en dehors du fait que vous avez souvent l'exposition de données à caractère personnel, voilà autant de choses que les femmes subissent sur les réseaux ou en ligne.
Alors, vous, Louise Yao Klaourou, est-ce que personnellement, vous avez déjà été victime de violences basées sur le genre?
J'ai été exposée à des images que je n'aurais jamais souhaité voir. Donc, certaines personnes se sont donné le droit de m'envoyer des images de leur appareil génital. Donc, voilà. Je n'ai pas poursuivi, mais j'ai bloqué tout de suite.
Comme l'a fait Angelina.
Personne. Voilà.
D'accord.
C'est un peu ça. Sinon, à ce jour, j'ai pas vraiment été victime de harcèlement, peut-être d'arnaque, mais c'est pas allé plus loin que ça parce que on sait plus ou moins comment les uns et les autres
procèdent.
Voilà. Surtout quand on est du milieu, on sait plus ou moins comment ils procèdent. C'est vrai que des proches ont été victimes d'arnaque, certains numéros ont été dédoublés, on va dire certains profils ont été dédoublés et envoyés des messages du genre « Ah, mon frère, puisque c'est ton ami, tu te dis « Ah, ok, il est dans le besoin, qu'est-ce que je fais ?» Je lui viens en aide. Malheureusement, c'est juste son compte qui a été dédoublé pour prendre de l'argent avec ses contacts.
D'accord.
Donc voilà autant de choses.
Tout à l'heure, vous abordiez le volet des conséquences sur la vie des victimes. Est-ce que vous auriez un mot là-dessus, Angelina?
Oui.
Nyangoran?
Oui, bien sûr. En fait, ici, lorsqu'il y a toutes ces choses-là dont les femmes sont victimes sur les réseaux sociaux, en ligne, c'est après que ça les décourage à telle enseigne qu'elles se retirent, en fait. Elles préfèrent supprimer soit leur compte, ou bien le compte est là, mais elles ne sont plus actives, elles n'osent plus s'exposer, elles n'osent plus se montrer, en fait, ou faire quoi que ce soit, prendre une position sur Internet. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, elles ont elles finissent par avoir tellement peur qu'elles en arrivent même à perdre la confiance en elles pour se dire « Non, moi, je ne peux plus m'exposer, je ne peux plus m'exprimer, je ne peux plus prendre de position. » Ou bien, ils ont raison, je ne suis pas si belle que ça. Ils ont raison. Par exemple, les mères célibataires sont très attaquées sur les réseaux sociaux. Dès qu'une femme ou une jeune fille commence à prendre position, on cherche tout de suite, si elle a un enfant en même temps, on s'agrippe dessus. Pour dire « Oui, c'est vous », on utilise tous les noms dégradants. Et ça fait que sans que la femme en elle-même décide que ça soit ainsi, elle se retrouve à avoir une estime d'elle qui décroît au fur et à mesure. Et au-delà des réseaux sociaux, dans la vie même hors ligne, elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à se montrer aux autres, en fait.
D'accord. Autre conséquence à relever, Louise Yao?
Ah oui, il y a des conséquences très graves, dont la perte de confiance en soi, comme elle a pu le notifier. Mais il y en a qui vont jusqu'au suicide. Certaines jeunes filles, parce qu'elles sont harcelées sur les réseaux, traitées de tous les noms, intimidées et tout ce qui va dans ce sens-là, finissent par se donner la mort. C'est vrai qu'ici, à ce que je sache, il y a eu un ou deux cas de tentatives qui n'ont pas abouti, mais dans les pays occidentaux, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant de 11 ans qui s'est suicidé parce qu'il subissait du harcèlement. Non seulement il subissait du harcèlement à l'école, mais ça continuait aussi en ligne sur ces jeux, parce que vous avez des jeux en réseau et ainsi de suite. Et ça continuait jusque-là, l'enfant s'est suicidé. Donc ça va jusqu'au suicide. Mais ce qui est grave pour les jeunes femmes, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore la culture de s'imposer face au regard des autres, véritablement. Donc ça tue énormément d'intention de s'ouvrir au monde, ça tue énormément d'ambition même. Parce qu'il suffit qu'on vous rabroue, qu'on vous harcèle, et ces femmes-là, comme elle l'a dit, ferment leur compte, se ferment aux technologies. Quand on sait ce qu'on peut avoir comme ressources en termes d'études, en termes d'entrepreneuriat, en termes de bien-être même, de positionnement stratégique, politique, professionnel, quand on sait tout ce qu'on peut obtenir grâce au réseau, grâce aux technologies, si on a une femme, ne serait-ce qu'une seule femme, qui se déconnecte et qui se prive du fait d'un harcèlement ou d'un danger qu'elle aurait, dont elle aurait peur sur les réseaux, c'est déjà très grave. Donc il faut effectivement qu'on puisse amener les femmes à tenir tête, à avoir une posture aussi, avoir une certaine posture sur les réseaux. Et c'est en cela que l'ABCI organise assez couramment les blogs académiques pour permettre aux jeunes, et des discussions aussi, pour permettre aux jeunes de connaître le côté néfaste aussi des réseaux, le côté néfaste aussi de la surexposition quand on n'est pas vraiment, on n'a pas un bon background, on n'a pas une charge mentale assez forte, ou on n'a pas une capacité de résilience assez forte. Comment on se préserve? Donc, on a beaucoup d'écoute, on a beaucoup d'accompagnement dans les écoles, avec les étudiants, les plus jeunes, et parce qu'il faut qu'on puisse faire quelque chose pour ces jeunes-là.
Et de nombreux cas vous ont été rapportés?
Oui, énormément de cas nous ont été rapportés. Le dernier en date qui m'a contacté est un jeune garçon qui avait partagé un contenu assez intime de lui avec sa bien-aimée, un adolescent hein, d'à peine 19 ans, et qui finalement s'est vu être contacté par quelqu'un qui lui faisait du chantage. Donc soit il donnait un certain montant, ou alors ses vidéos, ses photos se verraient partagées sur les réseaux. Bon, on l'a accompagné comme on l'a pu avec la PLCC, qui est la police criminelle, contre la cybercriminalité en ligne. Et on a pu mettre fin à ce harcèlement-là. Donc, il y a énormément de cas. C'est vraiment à l'appel.
D'accord. Niangoro Angelina voulait,
ajouter quelque chose. Allez-y. En ce qui concerne les formes de violence basées sur les gens en ligne. Il y a aussi la surveillance. Par exemple, vous avez quelqu'un avec qui vous marchez et la personne se permet de se connecter à votre WhatsApp. De sorte que tout ce que vous recevez comme message, la personne est au courant. Elle sait tout ce que vous faites avec les autres et tout, juste pour vous contrôler. Ça, c'est plus dans les relations amoureuses et tout. Ça peut être aussi utilisé dans d'autres domaines. J'ai une amie qui en a été victime. Tout ce qu'elle recevait comme message, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a pu le faire et vraiment, ça l'a fatiguée. Elle était un peu mal à l'aise et tout.
Mais comment elle s'est rendue compte que son compte avait été...
Ça, les questions qu'on lui posait, est-ce que c'est uniquement via ce réseau-là qu'elle a... Elle a fait cette conversation avec la personne de qui on lui parle. Et ce qu'elle a dit, elle n'a pas parlé, elle a écrit. Et c'est elle seule qui a accès à son téléphone. Et donc, la personne, ils ne sont pas dans la même maison. Comment est-ce qu'il a eu, il a su? Et c'était récurrent, ce n'était pas une seule fois. Donc, en fin de compte, la personne lui a dit, tu sais, tu penses que tu te caches, mais en réalité, tout ce que tu fais, je sais en fait. Imaginons si c'était, par exemple, dans... le cadre professionnel où il y a des données qui ne devraient pas fuiter, la personne a accès à votre téléphone et parce que la personne a eu accès, peut vous influencer pour dire « Ok, moi je sais que votre entreprise fait telle, telle, telle chose, du coup, donne-moi ça en retour, sinon je mets ça sur la place publique. » Ce n'est pas seulement le côté intime, en fait, qui est dangereux sur les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, au niveau de l'ABCI, vous avez souligné que vous avez des actions, justement, de lutte contre ces violences. Est-ce que vous avez aussi un volet prise en charge des victimes?
Prise en charge à proprement parler, non, accompagnement, oui. Si il s'agit de le référer à la police anti-cybercriminalité, on le réfère. Si c'est un problème au niveau de la charge mentale ou la santé mentale, on peut le référer à un psychologue. Donc, d'accompagnement, mais pas de prise en charge.
D'accord. Et concernant toujours la lutte contre ce phénomène, quels sont, on va dire, les acquis?
C'est la loi de 2013 qui, aujourd'hui, nous conforte un peu. Parce que quand il y a une situation, on sait que sur le plan juridique, on peut facilement être encadré, on peut être protégé et tout. Il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, au niveau des femmes, il y a, on va dire, une armée qui est en train de se lever au fur et à mesure avec les organisations comme la Ligue qui militent vraiment pour la cause des femmes qui...
Quand vous dites la Ligue?
Oui, la Ligue.
Laquelle?
La Ligue ivoirienne des droits des femmes qui aujourd'hui est, on va dire, une référence en matière de lutte contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Dès qu'il y a quelque chose, souvent quand nous-mêmes à Pissington, puis on a des cas, comme on n'est pas outillé pour ça, notre mission n'est pas vraiment, vraiment axée sur ça, nous on est sur le côté formation, leadership et autres. On leur dit, partez soit à la Ligue ou au Conseil national.
Vous référez les cas.
Oui, référez-vous à la Ligue parce que là-bas, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer tout ce qui est violence faite aux femmes à votre avantage, en fait. Il y a aussi le Conseil national des droits de l'homme qui est très ouvert. Dès qu'il y a une situation, que ce soit en ligne ou hors ligne, où la femme est victime, ils peuvent aider aussi. Mais comme je le disais, comme le genre, ce n'est pas que les femmes. Le Conseil national des droits de l'homme est ouvert à tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, à tout le monde, des groupes et tout. Donc là aussi c'est bon. Il y a la PLCC aussi, qui est aussi un moyen pour protéger les victimes et les défendre en quelque sorte. Parce que quand ils vont aller à la PLCC, il y a la possibilité de les aider, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre les personnes qui leur ont fait ce tort-là. Il y a aussi les commissariats. De plus en plus, les commissariats sont équipés, sont formés parce que, comme je le disais, cette armée de femmes qui a commencé à se lever a fait du bruit pour dire qu'en fait, le problème, il est plus profond que le fait que la personne soit victime. Parce qu'après même, il y a d'autres choses qui peuvent traumatiser davantage. On va dire, mais toi, pourquoi tu as fait cette vidéo? Pourquoi tu as fait ceci? Quand on arrive au commissariat, c'est compliqué même d'aller en parler. Mais aujourd'hui, les commissaires, les agents de, on va dire, police et tout, sont formés à la chose. Il y a aussi les hôpitaux où il y a des services dédiés aux personnes qui sont victimes d'harcèlement. Et je me suis renseignée auprès de quelqu'un qui travaille dans le social. Il m'a dit que, en fait, c'est vrai que les violences en ligne, à l'hôpital, c'est pas directement géré, mais puisque ça crée des conséquences psychologiques. Donc, il y a le volet psychologique qu'on doit gérer. En ce moment, c'est bon d'aller à l'hôpital, voir un service qui se charge de tout ce qui est violence basée sur le genre. Eux, maintenant, ils vont encadrer la victime sur le plan psychologique. C'est pour dire qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, parce qu'au niveau des lois, par exemple, les lois ne sont pas vraiment, vraiment connues. Il n'y a pas cette communication intense à outrance sur les lois. C'est vrai aussi qu'on dira que c'est là que la société civile doit rentrer en ligne de compte. Mais je me dis qu'au-delà du fait que la société civile doit rentrer en ligne de compte, les personnes en charge de faire toutes ces lois-là devraient aussi mettre quand même un mécanisme de communication assez puissant, assez pointu pour que déjà nous, membres de la société civile, on soit informés. Et aussi avec les réseaux sociaux, que tout le monde puisse avoir l'écho. Mais aujourd'hui, quand on parle de certaines lois, c'est comme si, bon, c'est aujourd'hui quand on a fait la loi. Pourtant, c'est depuis 2013 que la loi existe.
D'accord, je vous remercie. Louise Yao, en termes d'acquis et de défis.
Alors, parler en second, c'est bon aussi parce qu'elle a dit énormément de choses. Donc, au niveau des acquis, effectivement, vous avez, comme elle a pu le notifier, des bureaux genre. Dans certains commissariats qui ont été formés par beaucoup d'organismes internationaux en charge du genre, des femmes, dont ONU Femmes et tout ça, UNFPA, le ministère de la Femme. Donc, il y a autant d'entités qui concourent au bien-être. Mais les défis restent nombreux parce que c'est vrai qu'on a enlevé la notification nouvelle derrière technologie, mais ça reste nouveau pour énormément de personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas que partager simplement la photo d'un individu ou d'une individu avec des injures ou avec un qualificatif péjoratif peut vous ramener quelques petits mois de prison, même si c'est avec sursis. Donc, il faut énormément communiquer là-dessus, mais il faut aussi mettre en place un mécanisme. Que ça parte depuis le primaire, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas seulement les lois ou le droit, de façon générale, on vous dira que c'est pour les grands, mais ce qu'on apprend depuis l'enfance, on l'ingurgite mieux que ce qu'on doit apprendre beaucoup plus tard. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 12-13 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils doivent savoir comment se comporter sur les réseaux sociaux. Donc, il faut peut-être mettre à contribution aussi notre système éducatif. Vous avez combien d'écoles qui font informatique, même simplement? Il y a combien d'écoles qui font des cours dessus? Il faut aller jusqu'au baccalauréat pour faire peut-être des études sur le digital, pour faire des études sur les nouveaux métiers et tout ça. Donc, il faut peut-être mettre à contribution le système éducatif, communiquer dans nos langues nationales aussi, parce que vous avez des personnes qui débarquent. Aujourd'hui, on a l'impression que WhatsApp est partout. Le lettré, l'alphabétisé ou pas, tout le monde utilise ces canaux-là. Mais ils vous partagent des informations qui, pour quelqu'un qui a affaire, ne serait-ce que le CE2, c'est ahurissant. Mais il se dit que, ah, on m'a dit, donc il partage aussitôt. Or, tout ça, ce sont des dangers, en fait. Vous avez ceux qui partagent les liens. Pour le hameçonnage, pas possible. Il va vous envoyer un lien pour dire, non, il y a telle enseigne qui offre 1 000 $ ou des choses vraiment aberrantes, en fait. Donc, il faut pouvoir former, effectivement, les gens. À la limite, informer, peut-être. Mais il faut que nos canaux de communication publique puissent servir à cela. Parce que si on veut numériser totalement nos métiers anciens, si on veut pouvoir profiter des innovations qu'offre le numérique, il faut pouvoir le démystifier. J'ai envie de dire ça comme ça. Il ne faut pas que ça reste la chasse gardée d'un certain nombre de personnes qui savent qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Il faut que tout le monde qui a la capacité d'utiliser ces canaux-là puisse avoir l'information des dangers, mais aussi de ce à quoi on s'expose si on pose un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, on ne sait pas que l'injure ou la diffamation ou l'accusation gratuite, quelqu'un peut porter plainte en fait pour ça. Une personne qui partage ma photo et qui dit avec son gros front là, je peux me sentir et aller porter plainte. Donc, il y a autant de choses qu'on ne sait pas, que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, voilà un peu les freins. Il faut qu'on puisse vulgariser non seulement la loi de 2013, mais aussi celle sur la presse en ligne, parce que beaucoup se constituent à partager les informations comme si ils étaient de la presse ou ils étaient des canaux de d'information réglementés, alors que non. Donc, il faut pouvoir orienter toutes ces personnes-là.
D'accord. On va terminer notre émission. Appel à lancer. On va y aller avec Niangora Angelina.
Moi, l'appel que je veux lancer, c'est à l'endroit de nos autorités d'abord, pour leur dire que c'est vraiment un problème, on va dire grave, les violences qu'on vit en ligne, parce que ce sont les mêmes violences en ligne, mais qui sont amplifiées quand elles arrivent là-bas. Et ça amène à beaucoup de dérives, à des choses, comme elle a dit, le suicide, la dépression. Il y a tellement de choses qu'on ne doit pas prendre ça comme un fait divers, on va dire. Donc, dans nos médias, déjà classiques comme la télé, on peut instaurer une tranche horaire de sensibilisation sur la violence faite aux femmes en ligne. Faire une formation sur comment reconnaître même les fake news, les deepfakes, certaines choses qui vont éviter à la femme de tomber dans les pièges de leur bourreau. Et puis aussi, à ces femmes-là qui sont victimes, je veux leur dire qu'elles ne sont plus seules. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations de la société civile, même étatiques, il y a le ministère de la Femme aujourd'hui qui est vraiment ouvert. Il y a, comme j'ai dit, la PLCC qui n'est pas un truc privé, c'est l'État qui l'a instauré, mais qui travaille bien aussi. Il y a le CNDH qui est un truc national qui travaille pour les femmes. Qu'elles ne se disent pas, si je vais, comment est-ce que les gens vont me prendre et tout? Qu'elles viennent, elles seront accueillies, elles seront écoutées, elles seront encadrées et protégées par toutes ces organisations mises en place. Aux jeunes filles, c'est de faire très attention, de ne pas croire que sur les réseaux sociaux, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut tout montrer. Faites très attention, même si aujourd'hui vous êtes hyper amoureuse, demain l'amour vacille à tout moment. Donc ça peut s'incliner et si vous vous séparez par malheur, on ne sait pas. Même vous pouvez être ensemble, mais pour vous intimider par rapport à quelque chose, votre partenaire peut vous divulguer certaines informations qui vont vous nuire.
Si vous venez de nous prendre en marche, amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre espace de discussion aujourd'hui consacré aux violences basées sur le genre en ligne. Et nous étions avec Nyangora Angelina pour son appel à lancer, bien sûr, en guise de conclusion. Et là, vous vous adressiez aux amoureux, on va dire comme ça, entre griffes, par rapport au partage des données assez confidentielles.
Oui. Donc, je le disais, de faire très attention parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas demain. Vous êtes amoureuse aujourd'hui et tout. La personne semble être parfaite, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, de faire très attention par rapport à ça. Et en même temps, de ne pas se sentir seule au cas où on a fait cette erreur-là. Il y a tous les mécanismes aujourd'hui pour nous encadrer, pour nous protéger par rapport à ce genre de situation.
D'accord.
Et de ne pas avoir peur, surtout, d'utiliser les réseaux sociaux aussi. Parce qu'on a dit, on a la possibilité d'être victime en ligne aussi. De foncer, il y a des gens derrière qui pourront vous aider au cas où vous avez des problèmes.
D'accord. On y va avec Louise Yao.
Alors, je vais emboîter son pas, commençant par les jeunes filles. Les réseaux sociaux, le web, on va dire de façon générale, vous offrent énormément d'opportunités. Opportunités d'apprentissage, d'élargissement de son réseau, d'élargissement de son réseau professionnel, pour entreprendre, pour se former, et ainsi de suite. Donc, il faut y venir. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut éviter de poser un certain nombre d'actes. Je veux dire par là qu'il ne faut pas faire ce qui ne vous plairait pas de voir dehors. Voilà, je dis ça comme ça, de façon terre à terre. Ce dont vous aurez honte, ce que vous ne pourrez pas assumer, il ne faut pas le faire. Si vous aviez déjà posé ces gestes-là, il faut pouvoir supprimer déjà. Au moins, ça peut vous garantir une certaine
sécurité. Si par exemple la photo a déjà été envoyée.
Si la photo a déjà été envoyée, on va peut-être compter sur la bonne foi du destinataire. Mais sinon, il faut éviter. Ce sont des choses à éviter. La vie nous offre énormément de surprises. Vous, comme elle a dit, vous savez aujourd'hui, mais vous ne savez pas demain. En dehors même du fait qu'on puisse l'utiliser peut-être dans le cadre, on va dire, relationnel, ça peut vous porter préjudice pour votre carrière demain. Si vous décidez de vous lancer en politique ou de vous lancer dans tout autre domaine.
Ou même de postuler
une bourse, voilà, simplement. Donc, il faut éviter de faire ce qui pourrait vous porter préjudice demain, simplement. Pour nos médias, que chacun prenne, on va dire, son bâton de pèlerin. C'est un sacerdoce que chacun pourrait avoir, chacun pourrait prendre sur soi, d'informer un peu ses auditeurs sur les dangers, mais aussi sur les bienfaits aussi du numérique. L'État de Côte d'Ivoire aussi, pour ce qui m'a été donné de voir, beaucoup de métiers vont disparaître. Il faut pour cette fois que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire puisse se positionner sur le numérique, qu'on puisse amorcer déjà les changements qu'il faut pour qu'on puisse parler d'une Côte d'Ivoire numérique prospère. Et aux femmes, de façon générale, il faut vous former, il faut vous faire accompagner, parce que le numérique, le digital, offre énormément d'opportunités, comme je l'ai dit. J'insiste là-dessus parce que je vois des entrepreneurs sortir, on va dire, du gouffre, rien qu'en ayant appris à se repositionner sur les réseaux, à se repositionner grâce au digital. Et l'ABCI, qui est l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, accompagne dans ce type de formation-là, accompagne dans les campagnes digitales, accompagne dans tout ce qui est activation. Donc, vous pouvez nous contacter sur tous nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il suffira de taper Association des blogueurs de Côte d'Ivoire et vous nous verrez. Et je veux préciser qu'on est différent des vlogueurs et donc des personnes qui font des vidéos sur les réseaux qu'on peut voir assez couramment, juste pour lever la nuance qu'il y a entre Facebookers, vlogueurs et blogueurs. C'est un beau corps de métier auquel j'appartiens. Et l'ABCI, en mon nom, sera heureuse de vous accompagner, mes chères femmes, de vous accompagner dans votre formation. Vous êtes une coopérative, une association de femmes. Vous avez des produits, vous avez besoin de les écouler. Vous pouvez nous contacter, on va vous accompagner à mettre en place des canaux de communication et pourquoi pas de distribution de vos produits.
D'accord, je vous remercie. Pour parler aujourd'hui des violences basées sur le genre en ligne, précisément des violences faites aux femmes, nous étions sur le plateau avec Louise Yao Klaourou, chargée des relations extérieures de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, et Nyangora Angelina, qui est la présidente de l'association Piscine Campus. Encore merci à toutes les deux d'être venues.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous aussi.